Bonjour à tous, bonjour Sophie Laurence, bienvenue donc sur Fréquence Mistral pour cette émission mensuelle, les poèmes du lundi. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Donc une émission que vous avez déjà entendue, puisque ça fait déjà deux, ce sera la troisième émission. C'est une émission proposée et animée et préparée par Sophie Laurence pour nos auditeurs de Fréquence Mistral. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de deux poètes. Et on va commencer donc par, vous allez commencer par Raphaël Alberti pour ensuite continuer avec Federico Garcia Lorca. Alors, qui était Raphaël Alberti?
Raphaël Alberti, c'était la même génération que Federico Garcia Lorca. Il était, il a fait des études normales, puis après il a été arrêté. C'était un poète engagé, très engagé politiquement, puisque Lorca, et il a été en prison, etc. Il a beaucoup souffert. Bon, et après, il a dû s'exiler et il est né donc en 1902, mort en 1999. Il a quand même une belle longue vie. Voilà, donc je ne parlerai pas longtemps de Raphaël Alberti parce qu'il faudrait une émission pour lui tout seul, mais j'ai voulu l'associer à Federico.
Parce qu'ils ont de commun qu'ils sont espagnols tous les deux.
Et puis, ils sont poètes aussi. Puis, il a écrit justement Raphaël Alberti. Raphaël Alberti, il a écrit sur la mort de Lorca. Mm-hmm. C'est ça que je vais signaler. Voilà. Donc, voilà, il commence comme ça. C'est lui qui parle. Hein. Qui a dit que nous étions morts? A dit Raphaël Alberti. Consacré comme un des plus importants poètes de sa génération. Il écrit aussi des pièces de théâtre pour le front et les livres sur la défense de Madrid, exilé en Argentine. Alors, à propos de Madrid, il a écrit un très long poème dont je vous donne un petit extrait. Qui voudra, au cœur de l'Espagne, se montrer? Celui-là, qu'il vienne. Vite, Madrid est là, tout près. À coups de pied, d'ongles, de coudes, à coups violents, à coups de dents, le ventre en l'air, farouche et ferme. Madrid dure au pied de l'eau verte du Tage vers Navalperal. Siguenza, là où claqueront tant de balles qui chercheront à glacer son sang bouillonnant. Madrid, Madrid, cœur de l'Espagne, qui est de terre, a en lui-même, si on le gratte, un grand fossé profond, immense et imposant, comme le ravin qui attend. Lui seul peut contenir la mort. C'est fort. C'est un grand, grand poème. Alors, j'ai pris un poème qu'il a écrit à son chien. Qu'il a écrit à son chien. Voilà ce qu'il dit. « Ah, Niebla, mon chien, Niebla, toi, tu ne comprends pas, c'est ce que chantent tes oreilles. Le tabac innocent, naïf de ton regard, et les longs flamboiements que dans le bois tu laisses en sautant, tendre éclair de rien échevelé. Regarde ces chiens troubles, orphelins, circonspects, qui, surgissant soudain des brumes déchirées, traînent dans leurs limites, pas désorientés, tout le récent effroi de leur maison en ruine. Malgré ces fugaces voitures sans convoi qui transportent la mort dans une caisse nue, et malgré cet enfant qui observe, réjoui, la bataille là-haut qui aurait pu l'assassiner, malgré le meilleur compagnon perdu, malgré ma sordide famille qui ne comprend pas ce que j'aurais voulu, surtout qu'elle eût compris, et malgré cet ami qui déserte et nous vend, Niebla, mon camarade, tu n'en sais rien, bien sûr, mais il nous reste encore, au milieu de cette héroïque peine de bombarder, la foi qui est la joie, la foi, la joie. Et voilà, c'est... Il a tellement à dire, lui, celui-là aussi. Il veut créer l'homme nouveau, en chantant, comme Lorca. L'homme nouveau d'Espagne, en chantant. l'homme nouveau du monde en chantant. Je chante la nuit étoilée où je suis seule et exilée. Moi sur la terre, il n'est, mais sur la terre il n'est personne, qu'en soit seul, quand monte son chant. L'arbre a les feuilles pour escorte, et s'il est sec, il n'est plus arbre. L'oiseau a le vent et les nuages, s'il est muet, il n'est plus l'oiseau. La mer a les flots pour escorte et les bateaux dans leur chant joyeux. Le feu a flamme et bluette, et même s'il est grand, les ombres. Rien n'est solitaire sur la terre. Créons l'homme nouveau. Chantons. Voilà. Alors, ce poème, voilà l'écrit, ce qu'il a écrit à la mort de Lorca, qui est mort à 37 ans, tué par les, je peux pas dire, les horribles sbires de Franco, avec d'autres gens en même temps, donc enterré.
En quelle année ?
En 1936, mm-hmm. Il avait 37 ans. Et il a, enfin, il y a aussi un autre texte, je dirais, à la fin, sur ça.
Donc là, c'est un texte qu'il a écrit.
Ça c'est pas Lorca, c'est Alberti. Oui, oui. Appelle ça « Ballade de celui qui jamais n'est allé à Grenade ». Vous voyez, mm-hmm. Parce qu'il ne connaissait pas Grenade, apparemment. « Qu'il y a loin par les mers, les champs, les montagnes, déjà d'autres soleils fixent ma terre de grise. Je ne suis jamais allé à Grenade. Ma tête grise, les années perdues. Je veux retrouver les vieux chemins effacés. Non, je n'ai jamais vu Grenade. Donner un vert rameau de clarté à ma main et une courte bride avec un long cheval. Je ne suis jamais allé à Grenade. Quel ennemi se presse en ces chemins de ronde? Qui hante les clairs échos libres de ses airs? Oh, je ne suis jamais allé à Grenade. Qui emprisonne aujourd'hui ces jardins et met des fers à la conversation de ces jets d'eau? Non, je n'ai jamais vu Grenade. Venez, vous qui jamais à Grenade, n'allâtes. Il y a du sang versé, du sang qui m'appelle. Je ne suis jamais entré à Grenade. Il y a le sang que versa le meilleur frère, du sang sur les eaux et les myrtes des patios. Je ne suis jamais allé à Grenade. Le sang du meilleur des amis parmi les myrtes, du sang sur le Darrow, du sang sur les géniles. Non, je n'ai jamais vu Grenade. Si hautes sont les tours, haut est notre courage, accourez par les mers, les montagnes, les champs, car je vais entrer à Grenade. Voilà une idée d'Alberti qui mérite aussi une émission entière à lui. Alors, on va passer maintenant à la musique.
Oui.
On va écouter Albéniz, qui était aussi un ami de Lorca.
Alors, ça arrive tout de suite. Alors, après cette petite pause de musicale, très jolie musique, nous allons enchaîner avec votre le deuxième poète que vous avez choisi de nous raconter aujourd'hui. C'est donc Federico Garcia Lorca. On vous écoute, Sophie Laurence. Qui était ce poète?
C'était un grand poète, d'une grande beauté d'ailleurs, quand il était petit, même tout le temps. Et il a commencé par étudier la musique sérieusement. Il a été élève de Manuel de Falla. Et je ne peux pas raconter sa vie, il est très riche. Bon. Alors, je voudrais dire, s'il est fou de musique, parce qu'il adorait la peinture, il peignait, il a exposé, fou de couleurs, fou de poèmes, fou de romances gitanes, fou de tout, de la vie, de l'amour, de tout. Donc voilà, donc il a écrit des poèmes sur le canterando qui est les, ça s'appelle Romance gitane. Il a travaillé beaucoup sur ces gitans, parce que peut-être qu'il était aussi, il avait peut-être du sang arabe aussi, parce que il se sent très proche de. Alors il dit une chose, il a été très malade, il a eu une grande maladie quand il était jeune, très jeune, et il est devenu très gros bouffi et il a failli mourir par des maladies dans la bouche, je ne sais pas ce qu'il avait eu. Et il se regardait dans la glace et il se comparait au roi du Maroc qui était énorme à l'époque. Enfin, voilà. Il avait beaucoup d'humour surtout sur lui-même. Il était très charmant d'ailleurs dans la société, tout le monde l'adorait, quoi.
Et c'est un poète donc qui est né en juin 1898. Hein?
Oui, 99. Oui, c'est ça, le 5 juin 1999. Mmh. Voilà. Et il est mort en 1936. Alors l'homme petit, il a écrit des poèmes adorables, comme ça, presque enfantins, mais c'est très joli. Le caillou veut être lumière. Oui, le caillou veut être lumière. Il fait luire à l'obscurité des fils de phosphore et de lune. Que veut-il? Se dit la lumière, car dans ses limites d'opale, elle se retrouve elle-même et repart.
C'est court, mais c'est joli.
Et un autre poème très court aussi, c'est Trois arbres abattus. C'est pareil. Ils étaient trois. Vint le jour avec ses haches. Ils étaient deux. Elle, traînante d'argent. Il en reste un. Plus rien. L'eau reste déserte. Là, ça va vite. Hein. Là, c'est dire petites choses. Donc, on peut passer.
On peut passer la seconde musique.
Petit
d'accord.
Accompagnement.
Oui. Alors, il y a une erreur de choix de musique, donc un petit rattrapage au pied levé. Alors, on enchaîne avec quoi?
La guitare. C'est-à-dire, si on enchaîne sur... Déjà, on commence à s'approcher du romance du romancero, gitan, enfin du romancero.
Bien dans le micro.
C'est pas encore un canto.
Sophie, bien dans le micro.
Ah oui, c'est vrai.
Mais oui.
Moi, je suis très enrhumée aujourd'hui.
C'est pour les auditeurs qu'ils vous entendent bien.
Alors, commence le pleur de la guitare, de la prime aube. Les coupes se brisent. Commence le pleur de la guitare. Il est inutile de la faire taire. C'est un pleur monotone comme le pleur de l'eau, comme le pleur du vent sur la neige tombée. Il est impossible de la faire taire. Elle pleure sur des choses lointaines, sable du sud brûlant qui veut de blancs camélias. Elle pleure la flèche sans but, le soir, sans lendemain. Et le premier oiseau mort sur la branche, oh, guitare, oh, cœur à mort blessé par 5 épées. Oui, c'était un poème un peu mystérieux. Et je voudrais passer à quelque chose d'assez drôle, qui s'appelle « La salle des drapeaux ». C'est un dialogue, une petite pièce de théâtre déjà. Excusez-moi, je suis très prise. Voilà, il y a trois personnages. Il y a le lieutenant-colonel, le sergent et un gitan. Dans la salle des drapeaux. « Je suis le lieutenant-colonel de la garde civile. »«
Oui. »«
Personne ne me démentira. »«
Non. »«
J'ai 3 étoiles et 20 croix. »«
Oui. »«
Le cardinal archevêque m'a salué avec ses 24 pompons violets. »«
Oui. »«
Je suis le colonel. »« Je suis le colonel. »« Je suis le lieutenant-colonel de la garde civile. »
Roméo et Juliette, bleu ciel, blanc et or, s'embrassent dans le jardin de tabac de la boîte à cigares. Le militaire caresse le canon d'un fusil plein d'ombre sous-marine. Une voix au dehors.
Lune, 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 du temps de l'olive.
Cazorla montre sa tour et Benamégi la cache.
Lune, 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 lune.
Un coq chante dans la lune. Monsieur le maire, vos filles regardent la lune.
Qu'y a-t-il, le lieutenant-colonel ?
Un gitan.
Le regard de jeune mulet du gitan assombrit et dilate les petits yeux du lieutenant-colonel de la garde civile.
Lieutenant-colonel, je suis le lieutenant-colonel de la garde civile.
Le sergent, oui.
Toi, qui es-tu ?
Un gitan.
Et qu'est-ce que c'est, un gitan ?
Ce qu'on veut.
Comment t'appelles-tu, comme ça ?
Que dis-tu ?
Gitan.
Je l'ai trouvé, je l'ai amené, dit le sergent.
Où étais-tu ?
Sur le pont des rivières.
Mais de quelle rivière ?
De toutes les rivières. Et que faisais-tu là ?
Une tour en cannelle. Sergent, à vos ordres, mon colonel de la garde civile.
J'ai inventé des ailes pour voler. Je vole, soufre et rose sur mes lèvres.
Ah !
Le sergent colonel. Bien que je n'ai pas besoin d'elle pour voler nuées et anneaux dans mon sang.
Ah ! Ah ! Ah !
En janvier, j'ai de la fleur d'oranger et des oranges sous la neige.
Ah ! Ah ! Poum, pim, pam, pouf, il tombe mort.
L'âne de tabac et de café au lait du lieutenant-colonel de la garde civile sort par la fenêtre. Sergent, au secours ! Dans la cour de la caserne, 4 gardes civils rossent le gitan.
Alors, c'est une chanson qui s'appelle la chanson du gitan rossé.
24 gifles
24 gifles. Et puis ma mère, ce soir, me mettra dans du papier d'argent. Garde civile des chemins, donnez-moi une gorgée d'eau, de l'eau avec des poissons et des bateaux, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, commandant des gardes civils qui est là-haut dans ta chambre, n'as-tu aucun mouchoir de soie pour m'essuyer la figure?
On reconnaît toute la dramaturgie de vos talents d'actrice, de comédienne, oh, Sophie. Oui. Et là, votre voix, elle porte. Hein, autant pour parler, pour raconter, c'est tout timide. Mais alors, quand vous interprétez, oui, quand vous interprétez, là, ça y va. Hein,
c'est le problème des comédiens. Ils sont très timides pour eux-mêmes. Oui. Mais en fait, quand je parle, c'est moi qui parle. Donc, je n'ai pas ce côté, je sais pas comment vous dire, parce que je suis transportée dans un autre monde.
On le sent bien.
Quand je joue. Et quand je parle, bah, je suis toujours dans ce monde-là. Quoi. Donc, c'est vrai, c'est bien ce que tu me fais remarquer. Je n'ai pas fait attention. Voilà, donc on peut écouter. On va écouter le.
On va s'ouvrir. La musique.
Oui, la musique.
No te rebeles, serrana, aunque te maten tu gente. Yo tengo y sea juramento de pagarte con la muerte. Vinieron y me dijeron que tú había hablado mal de mí, y mira mi buen pensamiento, que no lo creí en ti. Ay, y ya, ay, y ya. Oh, padre de alma y ministro, ojo de Cristo, tronco de nuestra madre, iglesia sagrada y albo del paraíso.
Attends. C'est chanté avec une enclume, parce que l'enclume, c'est l'outil des gitans. Et ce qu'il dit en tapant rythmement sur l'enclume, bon là, il n'y avait pas cette enclume, c'est rien, c'est comment dirais-je, il chante, il raconte tout son malheur, il dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, quoi. Et chaque fois qu'il tape sur l'enclume, il tape pour se donner de la force, mais en même temps pour aussi se martyriser un petit peu, quoi. C'est un peu les deux, quoi. C'est cette martinette, et c'est vraiment un chant très tragique sur l'enclume. D'ailleurs, l'enclume a joué un rôle. Justement, je vais vous dire un poème à propos de l'enclume dans les...
Donc, c'est drôle parce que cette chanson qui vient d'être chantée par Raphaël Romero, l'enregistrement, c'est un CD.
Oui.
Et en même temps, on dirait que c'est un vieux vinyle.
Oui, c'est un vieux vinyle parce qu'ils
ont repris l'enregistrement.
Oui, oui. Ils ont repris, je ne sais pas, parce qu'il a dû le chanter il y a longtemps, quoi, parce que c'est un chanteur, c'est un des plus grands chanteurs de
flamenco.
Flamenco, un gitan, quoi. Bon, c'est vraiment le grand, quoi. Il a enseigné à beaucoup de gens. Alors, justement, il y a une romance qu'il faudrait après s'accompagner à la guitare, mais je n'ai pas de possibilité. Alors, ça s'appelle La romance de la lune, lune, lune. Voilà, alors vous allez voir qu'il est question aussi de la forge. Et vous allez voir comment c'est lié les choses. C'est assez fort comme image.
Alors, il l'a dédié à Conchita Garcia Lorca, sa sœur. La lune vint à la forge avec ses volants de nard. L'enfant, les yeux grands ouverts, la regarde. Dans la brise qui s'émeut, la lune bouge les bras, dévoilant, lascive et pure, ses seins blancs de dur métal. « Ah, va-t'en, lune, lune, va-t'en. Si les gitans arrivaient, ils feraient avec ton cœur bague blanche et collier. Enfant, laisse-moi danser. Quand viendront les cavaliers, ils te verront sur l'enclume étendue, les yeux fermés. Va-t'en, lune, 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 je les entends chevaucher. Enfant, laisse-moi. Tu froisses ma blancheur à midonner. » Battant le tambour des plaines, approchait le cavalier dans la forge silencieuse. Gît l'enfant, les yeux fermés. Par l'olivette venaient bronze et rêve, les gitans chevauchant la tête haute et le regard somnolent. Comme chante sur son arbre, comme chante la chouette. Dans le ciel marche la lune tenant l'enfant par la main. Autour de l'enclume pleurent les gitans désespérés, la brise qui veille, veille, la brise fait la veillée. Ce thème de l'enfant mort sur l'enclume, c'est pas faux, parce que même en France, on pratiquait cette façon. Quand un enfant était très mal, on le mettait sur l'enclume et le forgeron devait faire comme s'il allait écraser le fer, mais il arrête la masse juste sur l'enfant.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une pratique qui pouvait sauver, guérir, parce que ça crée une onde très forte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mm-hmm. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser à cette pratique qui se faisait en France, il y a longtemps. Hein. Mm-hmm. On mettait l'enfant mourant sur la forge et des fois il renaissait. Et elle repartait. C'est ça qui est étonnant. Et je suis sûre que les gîtes, c'est peut-être une pratique gitane, d'ailleurs, c'est rien, une pratique de forgeron, puisque c'était surtout beaucoup de forgerons. Donc voilà, cette légende, cette chose est très curieuse et mystérieuse. Puis l'enfant, il veut que la lune s'en aille parce qu'il a peur des gitans pour elle. Ça prouve quand même, avec le racisme qu'il y avait, cette espèce de... Les gitans ont toujours été maltraités, violemment, très violemment maltraités. D'ailleurs, il parle des gitans, alors qu'en disant qu'il raconte leur origine, c'est une origine indienne. Une indienne, et d'ailleurs, leur musique, leur type de physique rappelle constamment l'Inde. Et on oublie ils ont été chassés. Ils ont été chassés, je ne sais plus par. Ils ont été chassés par un maharaja, je ne sais comment. Enfin, ils ont été chassés. Comme ils sont chassés depuis toujours, quoi. Je ne sais pas à quelle époque ça se passait, il y a longtemps. Mais ils ont été chassés comme ça. C'est comme ça qu'ils ont quitté leur. Ils ont été chassés de leur pays. Voilà, parce que c'était une. Je sais pas. En Inde, il y a beaucoup pas de tribus, mais de gens différents. Il y a des gens qui vivent ensemble et qui ont des cultures d'origine différentes. Donc c'était ça. Et aujourd'hui, quand je vois comment on les maltraite, moi, ça me rend malade. Je trouve ça très, très triste. Alors, il y a un autre poème qui s'appelle « La femme adultère ». C'est un canté rondo, justement, qui est...
Alors, cherchez bien vos notes.
Là, voilà, la femme adultère.
Elle avait disparu, cette femme adultère.
Alors, la femme adultère, après je dirais un petit texte.
Alors, bien dans le micro, toujours.
La femme adultère. À Lydia Cabrera et à sa petite négresse. Je la pris près de la rivière, car je la croyais sans mari, tandis qu'elle était adultère. Ce fut la Saint-Jacques, la nuit, par rendez-vous et compromis, quand s'éteignirent les lumières et s'allumèrent les cris-cris. Au coin des dernières enceintes, je touchais ses seins endormis. Sa poitrine pour moi s'ouvrit comme des branches de jacinthe, et dans mes oreilles l'empois de ses jupes à midonnées croissait comme soie arrachée par 12 couteaux à la fois. Les cimes d'arbres sans lumière grandissaient au bord des chemins et tout un horizon de chiens aboyait loin de la rivière. Quand nous avons franchi les ronces, les épines et les ajoncs, sous elles son chignon s'enfonce et fait un trou dans le limon. Quand ma cravate fut ôtée, elle retira ses jupons, puis, quand j'ôtais mon ceinturon, 4 corsages d'affilée. Ni le nard, ni les escargots n'eurent jamais la peau si fine, ni sous la lune les cristaux n'ont de lueur si cristalline. Ses cuisses s'enfuyaient sous moi comme des truites effrayées, la moitié tout embrasée, l'autre moitié pleine de froid. Cette nuit me fit galoper de ma plus belle chevauchée sur une pouliche nacrée, sans bride et sans étrier. Je suis homme et ne peux redire les choses qu'elle me disait. Le clair entendement m'inspire de me montrer fort circonspect. Sale de baisers et de sable, au bord de l'eau je la sortis, les iris balançaient leurs sabres comme les brises de la nuit. Pour agir en pleine droiture, comme fait un loyal gitan, je lui fis don, en la quittant, d'un grand beau pamier à couture, mais sans vouloir en être épris, parce qu'elle était adultère et se prétendait sans mari quand nous allions vers la rivière.
Je rappelle que vous êtes sur Fréquence Mistral 99.3, c'est l'émission Les Poèmes du Lundi qui a lieu une fois par mois avec Sophie Laurence qui nous parle de ces poètes qu'elle aime tant et nous fait partager ces moments de culture. Donc nous venons d'entendre un poème de Federico Garcia Lorca.
La femme adultère.
La femme adultère.
Bon, il a écrit aussi la romance de la peine noire, dont je vous donne simplement quelques vers. Ne parle pas de la mer, car la peine noire pousse dans la terre aux oliviers sous la rumeur de leurs branches, la peine des gitans. Enfin, c'est ça, là. Alors, Sospiro del Moro, on va écouter cette chanson, ce morceau-là, qui est inspiré, le soupir du mort, c'est quand Boabdil, le dernier roi des morts à Grenade, dut quitter, poussé par la guerre que leur faisaient les chrétiens. Ils ont dû quitter, et quand il est allé, on regarde la Grenade sur la montagne, il pleure, il se lamente, et sa mère, qui était une femme très exigeante et dure, lui dit, si tu avais été un homme, tu aurais pu défendre Grenade et non pas être comme une femme. C'est très dur. Et c'est le soupir du mort, ça a beaucoup inspiré les chanteurs.
Donc on est bien d'accord, c'est la piste numéro 10, c'est Rana Antigua.
Je crois.
Hein?
Oui,
alors,
oui,
on y va.
van a partir. Por la sierra
mystérieux, dont parle merveilleusement bien Federico, et il a écrit un texte très long, mais dont je vous donne quelques extraits. C'est la théorie et jeu du duende. C'est assez mystérieux, le duende. Il y en a qui en parlent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent.
Et moi, je ne connais pas du tout non, ce
non,
mot.
Mais
donc,
c'est une chose qu'on ressent, qu'on ne peut pas tellement expliquer. Alors, bon, en toute simplicité, dans le registre de ma voix poétique, qui exclut les reflets du bois, les détours de la ciguë et les brebis qui se muent brusquement en couteau d'ironie, je vais tâcher de vous faire un simple exposé sur l'esprit caché de l'Espagne douloureuse. Quand on se trouve sur la peau du taureau tendu entre le jucar, la guadalete, le cil et la pisuerga, je ne citerai pas les ondes couleurs crinières du lion qu'agite la plata. Ça, c'est des régions, hein, c'est l'Espagne. On entend dire assez fréquemment, voilà qu'il y a beaucoup de duende. Manuel Torres, grand artiste du peuple andalou, disait à quelqu'un qui chantait, toi, tu as de la voix, tu connais les styles, mais tu ne triompheras jamais car tu n'as pas de duende. Dans toute l'Andalousie, roche de Jaén et de Conques, de Cadix, les gens parlent constamment du duende et le détectent tel qu'il se manifeste avec un surinstinct. Le merveilleux chanteur El Lebrijano, créateur de la Debla, disait « Les jours où je chante avec duende, personne ne peut me surpasser. » La vieille danseuse gitane, la Malenia, s'exclama un jour en entendant Brailovski jouer un fragment de Bach. Olé, ça, c'est du duende! Tandis que Gluck, Brahms et Darius Milhaud l'ennuyaient. Emmanuel Torres, l'homme à ma connaissance qui a le plus de culture dans le sang, après avoir entendu Manuel de Falla lui-même jouer son nocturne du Généralif, eut ce mot splendide. Tout ce qui a des sons noirs a du duende. Et il n'est pas de plus grande vérité. Ces sons noirs sont le mystère, les racines qui s'enfoncent dans le limon que nous connaissons tous, que nous ignorons tous, mais d'où nous parvient ce qui est la substance de l'art. Les sons noirs, dit l'homme du peuple espagnol, se rencontrant avec Goethe qui, à propos de Paganini, définit le duende. Pouvoir mystérieux que tous ressentent et que nul philosophe n'explique. Ainsi donc le duende est pouvoir de son œuvre, et pouvoir, mais surtout pas œuvre. Combat et non pensée. J'ai entendu dire à un vieux maître guitariste, le duende n'est pas dans la gorge, le duende vous monte en dedans, depuis la plante des pieds. Autrement dit, ce n'est pas une question de faculté, mais de véritable style vivant. c'est-à-dire de sang, c'est-à-dire de culture antique, de création en acte. Alors, bien sûr, ça se développe, et je reprends un peu plus loin. Les poètes de la muse entendent des voix, sans savoir d'où elles viennent. Ce sont celles de la muse qui les inspirent, et les gobent parfois. Témoin Apollinaire, ce grand poète détruit par l'horrible muse avec laquelle le peignit le divin, l'angélique Rousseau. La muse éveille l'intelligence, fournit des paysages de colonnes et la saveur trompeuse des lauriers. Mais l'intelligence est bien souvent l'ennemie de la poésie, car elle imite trop, car elle élève le poète sur un trône d'arêtes aiguës et lui fait oublier que tout d'un coup les fourmis peuvent le dévorer et qu'il peut lui tomber sur le crâne une grande sauterelle d'arsenic qui loge dans les monocles et dans les roses de lac tiède des boudoirs. Donc, il dit que le duende, ça vient d'une authenticité de vie et de sociale aussi. Donc, aussi bien, ça peut être aussi bien quelqu'un de d'aisé, quelqu'un de... Mais c'est en général la misère dans le peuple, en général. De là que ça sort, quoi. Alors, il dit, voici quelques années, un concours de danse avait lieu à Jerez de la Frontera. Eh bien, c'est une vieille de 80 ans qui enleva le prix à de belles femmes, à des jeunes filles à la ceinture d'eau, uniquement parce qu'elles savaient lever les bras, redresser la tête et taper du talon contre l'estrade. Sur cette assemblée d'anges et de muses, éblouissantes de beauté et de grâce, celui qui devait l'emporter, qui l'emporta, ce fut ce duende moribond qui traînait à ras de terre ses ailes de couteau rouillé. C'est assez étonnant comme image. Bon, ça continue, il a écrit un long texte là-dessus. Et le duende, est-ce que tu comprends ce que c'est ?
Un petit peu, oui.
Tu le pressens, tu le pressens. Hein ? C'est ça que j'aime bien, ouais. C'est qu'on ne peut pas l'analyser. Personne ne peut analyser. Mais tout le monde le sait.
Est-ce que vous-même, vous êtes sensible à la danse flamenco ?
Complètement. Voilà. Moi, j'ai ma formation, ma première formation, c'est la danse et je voulais faire que ça. Simplement, bon, la vie m'a...
Vous savez qu'il y a régulièrement des spectacles. On a la chance dans le département d'avoir Sophie Barberan, qui est une professeure de danse flamenco.
Oui, je sais qu'elle a donné des cours. Oui.
Voilà, elle est sur Perhuis.
Oui, j'ai entendu dire ça. Oui.
Et son mari chante, Domingo Acuña chante. Et il y a de très beaux spectacles régulièrement.
Ah, moi, j'ai jamais eu l'occasion. J'en ai entendu parler.
Mais... Parce que là, il y a les danseurs, il y a les musiciens, moi, les chanteurs.
J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai vu des grands danseurs espagnols. J'ai écouté, bien sûr, beaucoup de musiciens, d'amis qui jouaient. J'ai même, quand j'ai vécu en Tunisie, j'habitais à côté des gitans. Et c'était mes amis, donc tous les soirs j'étais avec eux et ils chantaient le flamenco, ils dansaient le flamenco, ils étaient assez nombreux. Et j'ai été sensibilisée au flamenco à 14 ans, voilà, ça a été très fort pour moi. Et c'est resté quelque chose de très dense, voilà. Mais bon, pour arriver au flamenco, il faut y passer des années pour se former. Puis bon, c'est quelque chose que j'admire et que j'aime beaucoup retrouver dans cette poésie de Lorca.
Alors, on continue avec les poèmes de Lorca.
Oui. Bon, comme il dit une phrase comme ça, partout ailleurs, la mort a une fin. Alors, justement, avant-dernier texte d'un poème qui s'appelle « Des poèmes, rues et rêves ». Et « Un oiseau de papier dans mon cœur dit que le temps des baisers n'est pas venu ». Il cite une phrase de Vicente Alexandre. Voilà. Danse de la mort. Le masque noir, voyez le masque noir, comme il vient de l'Afrique à New York. S'enfurent les arbres à poivre, les petits boutons de phosphore, s'enfurent les chameaux à la chair déchirée et les vallées de lumière que le cygne levait dans son bec. C'était le moment des choses sèches, de l'épi dans l'œil et du chat laminé, de l'oxyde de fer des grands ponts et le silence définitif du liège. C'était la grande assemblée des animaux morts, percés par les épées de la lumière. L'allégresse éternelle de l'hippopotame aux sabots de cendre et de la gazelle avec une immortelle à la gorge.
Dans la solitude fanée, sans fond, le masque noir bosselé dansait. Un côté du monde était de sable, de mercure et de soleil endormi, l'autre côté. Le masque noir, voyez le masque noir, sable, caïman et peur sur New York. Des défilés de chaux empoisonnaient un ciel vide où retentissaient les voix de ceux qui meurent sous le guano. Le ciel pur et pelé, identique à lui-même, avec le devet et l'iris aigu des montagnes invisibles, fit périr les tiges les plus frêles du champ et s'en fut au déluge empaqueté de la sève à travers le repos des ultimes cortèges, soulevant de sa queue des morceaux de miroir. Le masque noir, voyez le masque noir, quelle vague de fange et de verre luisant sur New York. Ce lieu n'est pas étrange pour la danse, je le dis. Le masque noir dansera entre des colonnes de sens et de nombres, entre les courants, les ouragans de l'or et les gémissements des chômeurs qui hurleront, nuit obscure dans ta durée sans lumière. Oh, sauvage Amérique du Nord, oh, impudique, oh, sauvage, couché sur la frontière de la neige. Non, oui, non. Mais... Non, ce ne sont pas les morts qui dansent. J'en suis sûre. Les morts sont absorbés à dévorer leurs propres mains. Les autres, ce sont les autres qui dansent avec le masque noir et sa guitare. Ce sont les autres, ivres d'argent, les hommes froids, ceux qui grandissent à la croisée des cuisses et des flammes dures, ceux qui cherchent le lombris dans le paysage des escaliers, ceux qui boivent à la banque des larmes d'enfants mortes, ou ceux qui mangent au coin des rues les minuscules pyramides de l'aube. Que le pape ne danse pas. Non, que le pape ne danse pas, ni le roi. Ni le millionnaire aux dents bleues, ni les sèches ballerines des cathédrales, ni constructeur, ni Esmeralda, ni fou, ni sodomite. Rien que ce masque noir, ce masque avec sa vieille scarlatine, rien que ce masque noir. Car les cobras siffleront aux plus hauts étages et les orties feront frémir cours et terrasses et la bourse sera une pyramide de mousse et viendront des lianes après les fusils bientôt, oui, bientôt, bientôt. Ah, Wall Street, le masque noir, voyez le masque noir comme il crache un poison de forêt sur l'angoisse imparfaite de New York. C'est un poème très... Je ne l'ai pas dit en entier parce qu'il est... Voilà. Et c'est... Là, on peut écouter l'amour sorcier, peut-être, dans cette espèce de danse.
Alors, l'amour sorcier.
Oui.
J'arrive.
C'est des deux. Il y a eu crime dans Grenade. Le crime. On l'avait vu cheminant entre des fusils par une longue rue, apparaître dans la campagne froide, encore étoilée, la campagne du matin. Ils ont tué Frédéric. À l'heure où surgissait la lumière, le peloton des bourreaux n'osait le regarder en face. Ils ont tous fermé les yeux. Ils ont prié. Dieu lui-même ne te sauverait pas. Il est tombé, mort. Frédéric, sang au front et plomb aux entrailles. Il y a eu crime dans Grenade, vous savez. Pauvre Grenade. Sa Grenade. Le deuxième. Le poète est la mort. On le vit cheminer seul avec elle, sans crainte de sa faux. Déjà le soleil frappe sur la tour et la tour, et les marteaux sur l'enclume et l'enclume et l'enclume des forges. Frédéric parlait, faisant à la mort sa cour, et elle l'écoutait. Parce qu'hier, dans mes vers, chère compagne, résonnait le choc de tes paumes sèches. Parce qu'hier, dans mes vers, chère, chère compagne, et parce que tu donnas à mon chant ton gel et à ma tragédie le fil de ta faux d'argent, je te chanterai la chair que tu n'as plus, tes yeux absents, tes cheveux que le vent secouait, et les rouges lèvres que l'on te faisait, que l'on te baisait. Aujourd'hui comme hier, ma mort, belle gitane, ah, qu'on est bien seul avec toi, à respirer cet air de Grenade, ma Grenade. On les vit cheminer. Taillez-moi, mes amis, un sépulcre de pierre et de rêve, dans l'Alhambra, pour le poète, sur une fontaine où l'eau pleure et dit éternellement « Il y a eu crime dans Grenade, sa Grenade. » Ma Antonio Machado, traduit par Jean Cassin. Voilà, c'est Cassou. Et c'est voilà sa mort. Au milieu, il n'était pas tout seul, il n'avait pas été fusillé tout seul. Il a été fusillé avec plein d'autres et il a été englouti dans une fosse commune, une fosse qu'on a déterrée maintenant, on déterre encore aujourd'hui. Voilà pour Federico, qui est un grand, grand poète. Et je ne parle pas de son théâtre, qui est justement, quand il parle de la mort, dans son théâtre, elle est là tout le temps. Il la personnifie, enfin, il arrive à... On la voit, et on finit par ne plus avoir peur, quoi. C'est en même temps, on a très peur de ce qui se déroule, parce que c'est assez tragique, c'est puissant, notamment en os de sang. C'est une histoire très simple, mais la lune a un rôle extraordinaire dans Noces de sang, comme d'ailleurs dans tout. Donc la lune, c'est la mort aussi, c'est quelque chose qui est très proche de la mort. Et pour lui, Frédéric, l'amour, la mort, c'est pareil. Enfin, et c'est très espagnol, enfin, c'est très... Voilà. Donc on pense à Carmen de Bizet, en fait. C'est très proche de cet tempérament qui... On ne sait pas d'où ça vient, d'ailleurs. Ça doit être un mélange, parce que l'origine de la musique gitane, elle est mélangée de ces gitans qui sont venus très longtemps, il y a longtemps, peut-être avant même, je ne sais pas si c'était en même temps que les morts, je ne me rappelle plus, je ne sais pas ça. Et la musique mauresque, la musique arabe, marocaine surtout. Mais enfin, on retrouve d'ailleurs les mêmes instruments, enfin, il y a des chansons aujourd'hui avec le oud ou d'autres instruments anciens, on retrouve ce qu'on entend dans le canté rondo. On entend tout ça dans les chants gitans. C'est ça qui est très troublant, et dans aussi les danses flamenco. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une espèce de truc, ça ne ressemble plus à ce que c'était, quoi. Ça ne ressemble plus. J'aime beaucoup le flamenco, mais j'ai du mal à supporter certaines façons de le faire.
Oui.
Parce qu'il manque le duende.
Ah, tout est là.
Tout est là, non?
Bon, Sophie Laurence, merci encore pour ces émissions, les poèmes du lundi. Avec quel poète on se retrouve le mois prochain?
Bien.
Est-ce qu'on le sait?
Sera une surprise.
Ça sera une surprise, voilà, on l'annoncera.
J'en ai plusieurs.
On l'annoncera voilà. Plus tard, donc on se retrouve donc dans un mois. Et oui. En attendant, merci encore Sophie, et pour nous avoir fait découvrir, ou redécouvrir pour certains, Federico Garcia Lorca et Raphaël Alberti. Allez, on se quitte en musique, à très bientôt. Bonne soirée et bonne fin de journée à tous.
Ah, 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 ah.
con mi Dios habló y le dijo: con mi Dios yo hablo y le digo: cuando me meto en mi cuarto, cuando en mi cuarto me meto, cuando me meto en mi cuarto, hablo con mi Dios y le digo: ahora quiero con un dedo. Hablo con mi Dios y le digo: qué mentira me parece lo que tú has hecho conmigo. Que me parece mentira lo que tú has hecho conmigo. Apetecía cuando Dios no...